enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, une chose concernant le baptême chez nous, je voudrais vous dire une chose, parce que vous imaginez peut-être, moi aussi j'imaginais le jour où je me suis baptisé, maintenant je suis baptisé, je vais m'engager avec Dieu. Je voudrais vous dire une chose, nous ne baptisons pas des jambons. Ici, on ne baptise pas des jambons. Les personnes qui sont baptisées ne sont pas nécessairement des gens meilleurs que d'autres. Voilà, on ne baptise pas les jambons ici. Nous baptisons des personnes qui, au contraire, ont reconnu leur manque, leur besoin, ont reconnu que Dieu seul est bon et qu'une bonne vie, une vie de qualité, tout ce qui est bon procède de lui. Et c'est ce que nous voulons apprendre dans nos vies. C'est pour ça que Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Quand Jean-Baptiste, qui précédait la venue de Jésus, est venu parler, la chose principale qu'il disait, moi je vous baptise dans l'eau pour un changement radical, un changement de nature, pas une petite amélioration, un changement de nature, ça veut dire que vous allez renoncer à vous confier en vous-même pour être bon, mais vous allez vous brancher sur la source d'un autre, sur la vie d'un autre. C'est ce que Jésus a dit en proclamant, changez radicalement, car le royaume des cieux s'est approché de vous. C'est encore ce que Pierre, un des premiers apôtres à la naissance de l'Église disait « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. » Donc le baptême a à voir avec l'idée « Je vais changer radicalement. » Mais pas changer juste de style de vie, changer de nature de vie. C'est pour ça que les baptêmes ne sont pas destinés aux jambons, si vous permettez encore l'expression, mais plutôt aux personnes qui reconnaissent leur nature égoïste et leur tendance naturelle à ne pas être bon. C'est cela que ça veut dire se repentir ou changer radicalement. Je reconnais ma nature égoïste et ma tendance naturelle à ne pas être bon. Jean-Pierre Audoyer, qui est docteur en Sciences Po en France, un docteur catholique qui a écrit pas mal de livres intéressants en Sciences Po et en politique, écrit ceci. Jésus a montré qu'un autre univers est imaginable pour peu que des hommes acceptent de se décaper mentalement. J'aime bien cette expression-là. Se décaper dans leurs repères, changer de paradigme, comme on le dit aujourd'hui, se débarrasser de leurs habitudes et reste ouvert à d'autres possibilités correspondant mieux à ce qu'ils cherchent obscurément. Il y a au-dedans de nous tous une aspiration à vivre autre chose, à vivre avec une autre source d'énergie, une autre qualité de vie. Et ce docteur en Sciences Po nous dit, Jésus a montré qu'un autre royaume, un autre univers est imaginable pour peu que les hommes acceptent de se décaper mentalement. Ça veut dire changer radicalement leur façon de penser, leur point de vue, leur repère, leur énergie vitale et qu'ils se débarrassent de leurs habitudes. Certains vont dire, mais on ne baptise pas les jambons, mais comment définir ce qui est bon? C'est quoi une bonne vie? C'est William Wallace. Tout le monde connaît William Wallace ici? Vous avez fait votre service militaire avec lui? Non, mais vous l'avez vu à la télévision probablement ou dans un film. William Wallace, c'est le fameux monsieur de Braveheart, vous savez, qui dit... Tous les hommes meurent, mais tous ne vivent pas. Et je trouve que cette parole est puissante, parce qu'il est en train de nous dire, c'est quoi une vie bonne? C'est quoi une vie pleine? C'est quoi vivre pour de bon? C'est quoi la vie en abondance? Puisque c'est ça la parole que Jésus a dit en disant, je suis venu sur cette terre, pas pour vous donner une religion, et vous restiez des minables qui en plus doivent être religieux. Vous avez deux problèmes, minables et religieux maintenant. Donc, déjà, minable sans religion, pour moi, j'ai trouvé que c'était déjà beaucoup dans ma vie, c'était déjà assez lourd. Alors, si en plus on veut me coller une religion dessus, j'en voulais pas. J'ai compris que Jésus proposait, non une religion, mais proposait un changement de vie. Tous les hommes meurent, mais tous ne vivent pas. Alors, c'est quoi vivre pour de bon? C'est quoi une vraie vie? Aujourd'hui, certains imaginent que vivre une bonne vie, c'est peut-être avoir un bon look. Il faut dire, chez nous, un bon look, dans notre pays, c'est une affaire très sérieuse. On a aussi dans notre église des coiffeurs, une esthéticienne qui a un bon cabinet, etc. Et on cherche tous à avoir un bon look. Ce matin, on s'est tous préparés, regardés dans la glace. On cherche tous à avoir un bon look. Regardez-moi, même je deviens blonde en me cherchant à avoir un bon look. Donc, je sais que c'est grave, mais bon, je me soigne. Mais un bon look, c'est quoi finalement? Parce que c'est tellement subjectif, un bon look. Ça signifie quelque chose de différent pour des gens différents. Il n'existe pas de standard universel. Vous êtes déjà tiraillé, vous qui avez des enfants, vous êtes déjà tiraillé avec vos enfants sur les vêtements qu'ils devraient porter pour avoir un bon look. Hein? N'est-ce pas? C'est quelque chose de subjectif. Quand vous qui êtes, les jeunes hommes qui n'êtes pas mariés, un bon look, sur qui tu vas zioter quand tu cherches, quand tu as le périscope qui se lève là, tu sais, puis tu dis, celle-là est pas mal. Mais c'est comment que tu... C'est quoi un bon look? C'est laquelle des deux? Celle qui a ramassé un morceau de sa pelouse et qui l'a mis sur la tête en le teignant en rouge? Ou celle qui plaque tous ses cheveux pour essayer de ressembler à une Barbie un peu châtain ou brune? C'est quoi un bon look? C'est tellement subjectif, ça change tellement. Un style de bon look, c'est quoi? C'est le style tailleur blanc, mode Sego, comme en ce moment. Ou alors, c'est plutôt le style de la blonde qui se dit toujours, j'ai oublié où est-ce que j'habite. Et comme j'oublie, on m'a dit, prends un plan. J'ai pris le plan, mais j'oublie toujours le plan. Finalement, elle a une idée. Elle a tatoué le plan de son quartier sur son ventre. Comme ça, quand elle cherche où est-ce que je dois aller, elle fait juste que lever son t-shirt et elle dit, ah, je suis ici. Mais je dois me souvenir que la carte est à l'envers quand je la vois comme ça. Mais quand même, c'est quoi le style que vous préférez? On a tous des styles. C'est quoi un bon look? Un bon look, monsieur, il hésitait. Qu'est-ce que c'est un bon look? Sa maman lui dit, j'aime les hommes fragiles et tendres. Mais sa femme lui dit, moi, je veux un gros musclé. Il a voulu l'amour de sa ville et ses deux femmes. Il a voulu essayer de les contenter les deux. Effectivement, ça, c'est quoi un bon look? Et si jamais vous avez deux enfants, ce serait quoi un bon look pour un enfant? Quel des deux vous voulez? Celui qui a des pics arc-en-ciel, mais des Jeux olympiques plutôt. Ce n'est pas des pics, c'est des cheveux olympiques sur sa tête. Ou bien les dreadlocks, et puis etc. Alors, c'est quoi un bon look? C'est tellement subjectif qu'une bonne vie, ça ne peut pas être juste un bon look, même si on cherche pas mal dans ce sens-là. Une bonne vie, pour certains, c'est se sentir bien. Ah, il faut que mes émotions soient bien. Ça, c'est une bonne vie. L'ennui avec les émotions, c'est que, par définition, une émotion est instable. Émotion veut dire quelque chose qui bouge, qui me fait bouger. Et toutes les circonstances de nos vies nous permettent souvent d'avoir des émotions différentes. Vivre une bonne vie, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes triste, quand vous êtes joyeux, quand vous avez faim, quand vous êtes frustré, quand vous écoutez un gars qui parle, quand, etc. Vous changez d'émotion selon les circonstances. Et parce que les émotions changent, une bonne vie, ça ne peut pas être juste se sentir bien. Parce que sans quoi on va sans arrêt se sentir bien, sentir mieux, sentir moins bien, sentir presque bien, sentir très mal, sentir... Ça ressemble à quelque chose, il y en a qui se reconnaissent comme ça. Donc ce n'est pas ça une bonne vie. Pour certains, vivre bien, c'est vivre en ayant des biens, avoir des biens. C'est le général de Gaulle qui nous disait, c'est possédant, possédé par ce qu'il possède. Je trouve la formule est significative. C'est possédant, possédé par ce qu'il possède. Et il nous dit, en France, la référence au bien, pluriel, a remplacé la référence au bien, au sens d'une bonne vie, d'une qualité de vie. Et Jésus dit ceci, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens matériels, serait-il dans l'abondance? Tout le monde a entendu parler du nom de Rockefeller, probablement ici, ce banquier riche, ou Rothschild, comme disait Gad Elmaleh, ma mère me dit toujours, c'est... Rothschild, c'est pas ton père, hein, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que moi, ma mère me dit aussi, Rothschild, c'est pas ton père. Mais que ce soit Rothschild ou que ce soit Rockefeller, ces gens-là nous ont dit une chose très intéressante. Ils nous disent que celui qui n'a de richesse que de l'argent et des biens matériels est un pauvre. Celui qui n'a pour richesse que de l'argent et des biens matériels, c'est un pauvre. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est une des plus grandes fortunes de la planète. Nous dit, avoir des biens, ce n'est pas ça une bonne vie non plus. Qu'est-ce que c'est alors avoir une bonne vie? C'est quoi ce qui est bon? Dieu le définit quand, dans la Genèse, le premier livre de la Bible, il a créé toute chose et puis il fait cette mention, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et c'était bon, c'était très bon. Ça veut dire quoi, ce qui est bon et ce qui est très bon? Comment définir? Parce que chacun va dire, bah ça, moi je trouve c'est bon, ça c'est pas bon. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un critère objectif, sans quoi on dit toujours, il n'y a aucun bien, aucun mal, la confusion arrive avec ça. Qu'est-ce que c'est, ce qui est bon? Pourquoi Dieu dit « ça, c'est bon » Je voudrais vous dire pourquoi. C'est que tout remplissait la fonction pour laquelle ça avait été créé. Quand c'est fait pour, Fernand Reynaud aurait dit « c'est étudié pour hein, », alors c'est bon. Quand c'est fait pour ça, c'est bon. La mer est faite pour avoir des vagues. Imaginez si les montagnes avaient l'idée de faire des vagues. Imaginez vous recevez le Mont Blanc, une bonne vague du Mont Blanc sur la tête. Ça s'appelle une avalanche. Ce n'est pas fait pour. Les montagnes ne sont pas faites pour nous tomber dessus de cette façon-là. Tout remplissait la fonction pour laquelle ça avait été créé. Eh bien, quand nous entrons nous-mêmes dans ce pourquoi nous sommes faits, notre vie devient bonne. Et c'est ça, une bonne vie. Nous ne baptisons pas des gens bons, mais nous baptisons des gens qui reconnaissent leur nature égoïste et qui vont demander à Dieu, s'il te plaît, fais de moi la personne que tu m'as destinée à être. Fais de moi la personne pour laquelle tu m'as créé. Quand nous entrons dans ce pourquoi nous avons été créés, notre vie devient bonne. Voyez, un bébé par exemple, c'est pas fait pour ça. Un évier, c'est pas fait pour ça. C'est pas comme ça qu'on fait à la fois la vaisselle et la lessive. Jennifer, tu vas avoir un bébé bientôt. Ne le mets ni dans l'évier, ni dans le lave-vaisselle. Si tu veux, tu demandes à Isabelle, elle a eu 6. Comment on lave un bébé? C'est pas fait pour ça, voyez. Et justement, c'est bon quand c'est fait pour ça, pas quand c'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous dit, nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a créés et il sait pourquoi nous sommes faits. Ayant été créés pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Laissez-moi vous dire une chose, nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres. Ça veut dire, nous ne sommes pas sauvés parce que nous serions meilleurs que d'autres. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons du bien. Nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour ensuite faire de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés juste par le mérite de Jésus-Christ, mais pour de bonnes œuvres. Ne croyons pas que c'est parce que Jean-Noël, Françoise ou Laurence font de meilleures choses que d'autres qu'ils peuvent se faire baptiser. Non, ce ne sont pas. Vous savez, vous trois, vous n'êtes pas des gens bons. Mais il y a une chose, vous êtes content de ne pas être des gens bons, n'est-ce pas, Laurence? Tu n'es pas un jambon, Laurence, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des gens bons, mais n'empêche, nous avons mis notre confiance en celui qui nous a créés pour de bonnes œuvres. Effectivement, nous ne sommes pas faits pour ça non plus. Hein? L'homme ne descend pas du singe, mais il n'est pas appelé non plus à redescendre vers son ordinateur. Nous ne sommes pas faits pour être courbés. Hein? Nous ne sommes pas faits pour cela non plus. Je vois des dames qui sont en train de faire du coude à leur mari, je comprends pourquoi. Moi aussi j'ai cette tendance à redevenir un orang-outan devant mon ordinateur de temps en temps. Mais nous ne sommes pas faits pour ça, nous sommes faits pour de bonnes œuvres. Être bien et faire du bien. Alors on va se dire, mais pourquoi, finalement, pourquoi j'aurais envie, pourquoi est-ce que je ferais du bien moi? Pourquoi est-ce que je serais bien? Quand on est bien, c'est-à-dire on correspond à ce pourquoi nous avons été créés, et qu'on commence à faire du bien autour de nous, pour de bonnes œuvres, une saine estime de soi grandit. Chaque fois que vous rendez service, depuis que je suis tout petit, quand ma maman me disait, tu vois une dame âgée, tu l'aides à porter ses courses, je ne pouvais pas imaginer le sentiment de satisfaction qu'il y avait en moi quand j'avais fini de porter ses courses. Même si elle ne me donnait pas une pièce, et je vous assure, je ne le faisais pas pour la pièce, mais quand on fait quelque chose de bon, il y a un sentiment de bien-être, un sentiment d'estime de soi qui grandit. Mais le plus, c'est qu'il y a une bonne vie qui vient. Quand on devient ce pourquoi nous avons été créés et que nous faisons du bien, une saine estime de soi arrive et une bonne vie. Donc, quand je suis bien et que je fais du bien, je me sens bien, je commence à avoir un meilleur look, avoir une bonne estime de moi. Même si je suis petit, je me sens déjà quelqu'un d'important, etc. Ah, mais, il y a un mais. De toute façon, il faut toujours qu'il y ait un mais dans ces histoires-là. Mais quoi? Mais il y a un problème. Ce problème, c'est que ce n'est pas dans notre nature d'être bon. Nous ne sommes pas naturellement bons. Certains imaginent encore qu'il y a des gens, vous savez, le mythe du bon sauvage. Et je lisais une histoire il n'y a pas longtemps d'un anthropologue athée, militant, qui se baladait dans les îles du Pacifique. Puis il arrive devant un homme qui lit un livre près d'un feu, et sur ce feu, il y a une grosse marmite qui boue. Alors il demande à cet homme, vous lisez quoi? Je lis la Bible, monsieur. Ah, mais vous ne devriez pas lire ce livre parce qu'il laisse les hommes dans l'esclavage, dans l'aveuglement. Vous devriez garder votre identité et votre culture. Et le monsieur répond, écoutez, monsieur, si ce livre n'avait pas changé ma vie et ma culture, vous seriez dans la marmite en ce moment. Et je crois réellement que la Bible, et au-delà de la Bible, la vie de Dieu qui nous est offerte dans le message de la Bible, mais la vie de Dieu vient pour transformer nos vies, parce que naturellement, le mythe du bon sauvage n'existe pas. Et je voudrais vous dire, il y a 4 raisons pour lesquelles je ne crois pas à la bonté de l'être humain. La première raison, c'est que la Bible dit que la nature humaine est trompeuse. Elle dit que tous les hommes ont manqué le but de ce pourquoi ils étaient destinés. Chaque être humain sent qu'il est fait pour quelque chose, mais dans sa vie, il voit qu'il passe à côté. Il manque le but, personne n'a atteint ce but-là. La Bible montre que l'être humain est corrompu par nature, à plus ou moins forte dose, mais qu'il est corrompu. L'histoire, deuxième raison, l'histoire témoigne que l'être humain n'est pas bon naturellement. L'histoire, ce n'est que le reflet de nos cœurs à grande échelle. Quand nous regardons les génocides, j'étais au Rwanda en 1995, je retourne au Rwanda, c'est un pays où je vais de temps en temps, dans quelques 10 jours, je serai de nouveau à Kigali, mais j'étais à Kigali au moment où il y avait encore les corps dans les jardins, dans les puits, les balles partout. Et tout le monde, mais comment ça se fait que l'on fait ça? Et Jésus dit, ne pointez pas les autres du doigt. L'histoire humaine n'est que le reflet de ce qu'il y a au fond de votre cœur. La racine même du cœur doit changer. C'est un changement de nature, ce n'est pas une religion que Dieu veut nous donner. L'histoire nous témoigne, que ce soit l'Holocauste juif, que ce soit l'Holocauste ou le génocide arménien, ou tant d'autres choses, les guerres en ce moment même, l'Irak, etc. Vous connaissez les actualités. L'histoire est le reflet de l'humain à grande échelle. La troisième raison pour laquelle je ne crois pas à la nature humaine, c'est que je suis parent. Et effectivement, étant parent, il y a des choses que j'ai apprises à mes enfants. Je leur ai appris comment manger proprement, j'ai appris comment prier. On a appris à certains comment nager ou comment skier, à d'autres comment faire leurs devoirs. Mais il y a des choses qu'ils ont fait très naturellement et avec une expertise étonnante. On n'a jamais eu besoin de leur apprendre à mentir, à masquer le truc. Ils savaient faire ça tout seuls et très bien, avec une expertise incroyable. Et le fait que la notion d'égoïsme, moi, écrit M, O, accent, plein de circonflexes dessus avec un grand A majuscule à la fin. Moi ! Ça c'est à moi ! Ça c'est vraiment... Et personne n'a... Qui t'a dit que ça c'est à toi que tu dois défendre tes... C'est à moi ! Qui t'a dit ? C'est à moi ! Aucune explication à ce moment-là. Et c'est complètement naturel. Il n'y a aucun cours sur l'égoïsme. Aucun parent qui enseigne ses enfants. Comment est-ce que je vais t'expliquer comment tu peux tromper les autres ? Mais généralement, ça arrive toujours assez facilement. Et parfois, on s'en rend compte, c'est tout mignon.
Allô, le responsable des poissons rouges. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant.
Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Vous avez les mêmes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la troisième raison pour laquelle je ne crois pas à la bonté humaine sur le plan naturel. Même si parfois on sourit. Nous, on a un de nos enfants qui avait eu, maintenant il a de bonnes situations, etc. Mais à un moment donné, je crois qu'il était en CE2, il avait eu un 7 en classe sur 20. Il trouvait que c'était une très mauvaise note. Donc le bulletin est arrivé, le maître d'école avait écrit ce 7 en encre noire. Lui a pris un stylo vert. Et il a écrit maladroitement un grand 1 devant pour nous faire croire qu'il avait eu 17. Et quand on a regardé ça, on a dit, Jérémy, c'est qui a marqué le 1 devant? Je pense, c'est le maître. Le maître, t'es sûr? Et puis, bon ben voilà, on a tous les mêmes. Et la quatrième raison pour laquelle je ne crois pas à la bonté humaine, c'est que plus ça va, plus je connais mon propre cœur. Et ça pourrait choquer certains, mais je vois dans mon cœur la vérité, c'est que bien souvent, je n'ai pas envie de faire le bien tout de suite. Ou des fois même un peu plus longtemps que ça. Ça m'arrive de juger plutôt que aider quelqu'un qui est en difficulté. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, comment elle conduit. Voilà, ça c'est moi ça. Hein? Comment elle conduit? Mais c'est pas possible qu'on offre le permis de conduire à une personne. Ah, si vous voulez me voir dans tout mon état, la démonstration, vous êtes convaincu une fois pour toutes que mon cœur est pécheur, faites juste un lift, un trajet avec moi, d'ici à la maison, ça suffit. 8 kilomètres, et c'est bon, vous serez convaincu. Parfois, j'aime argumenter encore, même quand je sais que j'ai tort, je discute avec mon épouse. À un moment donné, je sens au fond de moi, Philippe, si maintenant tu te tais, tu écoutes juste dans ton cœur, dans ta conscience, tu sais très bien. D'abord, ça ne vaut pas le coup d'argumenter. C'était en 82, non, c'est en 84, mais non, c'était en 80. Ce genre de dispute qui ne sert absolument à rien, discussion qui ne sert à rien. Mais j'ai quand même envie de dire, non, c'était vraiment en juillet 82. Et de, lâche ça, pourquoi ? Tu vas créer un climat comme ça au lieu de lâcher. Vous voyez, mon propre cœur me montre ça. Parfois, j'aime paresser au lieu de travailler de façon concentrée. Et même l'apôtre Paul dit, quand je veux, même si je veux faire le bien, parfois ça nous arrive de vouloir, je sens même que le mal colle à ma peau, à ma vie. C'est quelque chose qui fait partie de ma nature. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais c'est pour moi la quatrième raison pour laquelle je ne crois pas à la bonté humaine. Donc nous avons besoin d'une solution de Dieu. Et c'est ça le cadeau de Dieu. Il a donné son Fils Jésus-Christ, sur cette croix. Dieu qui est riche en bonté, lui est bon. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de vous. C'est un cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Jésus a été donné comme le cadeau de Dieu, la solution. Parce que nous avons besoin d'un changement de nature, pas que d'une religion. Et quand Christ est mort sur la croix, il a été frappé pour nos péchés, nous dit la Bible, il a été ces deux gros mots bibliques, justification, régénération, je vais vous expliquer. Justifié veut dire que nous bénéficions de tout ce que Jésus a accompli. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, au verset 3, l'apôtre Paul nous dit, « Dieu a condamné le péché dans un corps d'homme sur son Fils Jésus-Christ. » Dieu a frappé le corps de Jésus pour que nous puissions ne plus avoir sur nous aucun sentiment de culpabilité, aucune culpabilité dans nos vies. Ça, c'est le cadeau de Dieu. Dieu a condamné la nature humaine hostile sur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous n'avons plus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le compteur, à ce moment-là, est remis à zéro. Ça veut dire qu'il y a une régénération. C'est comme si toute notre vie, on remet le compteur à zéro, il y a un nouveau départ avec une nouvelle nature. L'Épître aux Corinthiens nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle nature. Il fait partie d'une nouvelle création. Et c'est ce que la Bible appelle Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si Laurence, Jean-Noël, François se font baptiser aujourd'hui, c'est parce qu'ils reconnaissent qu'ils veulent plus que suivre un groupe quel qu'il soit, une religion quelle qu'elle soit, mais ils veulent dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je veux que Christ soit le moteur de ma vie, qu'il soit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est le processus du début d'une vie qui est une vie de transformation. Je termine ici. Avec ceci, à partir de ce moment-là, nous entrons dans ce processus de transformation pour une grande et belle vie. Quatre choses se passent au moins dans nos vies. La première, la puissance de Dieu va annuler votre passé. Combien de personnes aimeraient parfois dire « Ah, si je n'avais pas fait ça », et se lamentent « Ah, si je n'avais pas fait ceci, si je n'avais pas fait cela ». Et la Bible nous dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur cette croix n'a pas coulé juste parce que les hommes étaient méchants, oh, vilains romains, vilains juifs qui ont crucifié Jésus. Mais Dieu a voulu effacer tous les actes passés que nous avons commis, toutes les choses que nous regrettons, nos fautes, nos erreurs, nos échecs. Il a annulé notre passé. Ce n'est pas un déni, c'est une neutralisation de tous les actes du passé que nous avons fait, que nous regrettons bien souvent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, à partir de maintenant, et pour vous c'est la même chose, oubliant ce qui est en arrière, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je vais courir vers le but de rencontrer Jésus dans ma vie. Deuxième chose qui se passe dans cette transformation, la puissance de Dieu va conquérir vos problèmes. Et c'est ça l'évangile, chacun a ses problèmes. Si vous pensez ne pas avoir de problème, s'il vous plaît, tâtez votre pouls. Seuls qui n'ont pas de problème sont dans les cimetières. Hein? Normalement, on vit tous avec des problèmes. Mais la puissance de Dieu va nous enseigner à solutionner ces problèmes-là, pas par notre propre force. Et bien souvent, on essaye de solutionner nos problèmes par nos propres forces. Je vais vous dire, comment savoir si vous essayez de solutionner vos problèmes par vos propres forces? Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Certains disent, je suis fatigué. Quand on cherche à essayer de s'en sortir par nous-mêmes, au lieu de se confier en lui pour s'en sortir, nous sommes fatigués. On vit dans nos propres forces. Et Jésus nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vais vous donner une façon de vivre qui va produire en vous une nouvelle énergie et vous garder en repos. Je ne dis pas que physiquement vous ne serez jamais fatigué ou nerveusement jamais fatigué, mais il y a une énergie vitale qui va vous aider à surmonter les problèmes. Les problèmes, c'est comme les matelas. On est toujours mieux dessus que dessous, n'est-ce pas? C'est vrai. Vivre au-dessus de vos problèmes, c'est confortable comme vivre au-dessus d'un matelas. Maintenant, si vous essayez de passer la nuit prochaine sous le matelas, ça étouffe. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu va vous aider à surmonter vos problèmes et vivre au-dessus. Troisième chose que la puissance de Dieu va faire, elle va transformer votre caractère. Le pouvoir de résurrection de Jésus va vous équiper pour changer votre caractère. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? Et si jamais vous êtes marié, j'ose poser la question, qu'est-ce que votre conjoint aimerait qu'il change en vous? Si jamais il n'ose pas vous répondre, encore une autre façon de le voir, qu'est-ce que vous diriez après cette phrase? Ah, c'est plus fort que moi, mais il faut que je me mette en colère. Il faut que je voie le côté négatif des gens. Il faut que je râle après les conducteurs. Il faut que je sois jalouse. Il faut que je... Voilà. Il faut que je fasse sans arrêt des mauvais choix. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je me connecte toujours avec les mauvaises personnes. Qu'est-ce que tu dirais après? Je ne sais pas comment je me débrouille, mais il y a ça qui arrive dans ma vie. Et parce que simplement, ça montre une faille dans le caractère. Et la puissance de Dieu va venir transformer notre caractère. Je ne vous promets pas ça en une seconde. Quand les trois vont sortir de l'eau, ils ne sont pas transformés. C'est un processus. La nature change au moment où on reçoit Jésus. Et ensuite, il y a un processus qui continue. Et la vie de Dieu va vous entraîner dans des aventures de foi jusqu'à une fin glorieuse. Ce baptême est une déclaration publique dans laquelle les trois candidats au baptême nous disent « Je reconnais que je ne suis pas bon, je renonce à moi-même, je ne vais plus vivre en égoïste, mais je vais vivre par la foi en Jésus-Christ. Je reçois sa vie en moi, je reçois sa justice comme un cadeau de Dieu, je prends ce nouveau départ. » Et désormais, je vivrai pour vivre la volonté de Dieu dans chaque domaine de ma vie. Je vais vivre par sa force et il va me mener à la victoire pour voir sa face pour toute l'éternité. Juste avant qu'ils interviennent, je vous demandais de regarder ce film vidéo. C'est pour moi une image de cette aventure de foi que l'on peut vivre sur la force d'un autre. C'est un petit garçon qui est handicapé, qui à l'âge de 11 ans a demandé à son papa « J'aimerais faire des courses ». Son papa n'était pas un athlète, mais il a commencé à s'entraîner. Et a commencé à gagner des marathons et des courses et le triathlon. Et le petit, même parfois, nage. Et seulement, il ne sait pas nager puisqu'il est handicapé. Alors, le papa nage et met derrière lui un petit bateau gonflable. Et il nage. Et le jeune, il a grandi maintenant, c'est un jeune homme, c'est un monsieur même. Il gagne des courses sur la force d'un autre. À la fin du film, on le voit arriver dans un stade. Et dans ce stade, tout le monde l'acclame. Et il est content parce qu'il a gagné par la force d'un autre, la force de son papa. Je vous dirais... C'est aussi ma vie, c'est mon témoignage ce matin. C'est le témoignage des trois qui vont se faire baptiser. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie, je la vis par la foi, dans celui qui devient le moteur de ma vie et qui va me conduire à gagner des courses. Et un jour, tous ceux qui ont mis leur foi en lui vont arriver dans plus grand qu'un stade, dans le ciel glorieux où les témoins qui ont cru en Dieu de toutes les générations, de toutes les nations de la terre vont applaudir. Et je voudrais vous dire, la sensation que ça va faire ce jour-là, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas une personne, Laurence, Jean-Noël, François, il n'y a pas une personne, quand vous allez arriver dans ce lieu-là, qui va être distraite, penser à autre chose, dire à son copain, passe-moi des chamallows. Ça, tout le monde va être simplement enthousiaste de vous voir arriver là, parce qu'il n'y a que des supporters de votre victoire ici. Et quand j'imagine ce moment-là, je suis transporté d'émotion, regardant ça ensemble, et puis ensuite on écoutera nos amis baptisés. Je peux seulement imaginer ce à quoi ça ressemblera quand je marcherai à côté de toi. Ce que mes yeux verront quand ton visage sera devant moi. Je peux seulement l'imaginer. Ce petit garçon à l'âge de 5 ans.
Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still?
Entouré par ta gloire, est-ce que je pourrais danser pour toi? Est-ce que je me tiendrai dans ta présence ou je serai à genoux devant toi? Est-ce que je chanterai Alléluia? Est-ce que je serai incapable de parler? Je peux seulement imaginer.
I can only imagine when all I will do
Un jour, par la force d'un autre, on va arriver au bout. Cette vie éternelle dans laquelle le ciel nous attend, ceux qui nous ont précédés nous attendent. Et c'est par la force d'un autre. Tout au long de notre vie, on n'aura pas la force en nous-mêmes. Mais nous plaçons notre force, notre foi en celui qui peut, Jésus-Christ.